le journal de Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Marguerite Caton, bonsoir à tous. Une rencontre Donald Trump-Vladimir Poutine semble se profiler, correspondance de Washington. Commentaire du géopolitologue Florent Parmentier. Également au sommaire, les enjeux militaires du cabinet de sécurité israélien en pleine réunion. Benjamin Netanyahou confirme, je cite, vouloir prendre le contrôle sans la gouverner de la bande de Gaza, explication d'Éric Biégalam. La disparition de la marque Naf-Naf, actée ce matin par le tribunal de commerce de Paris, met en exergue les difficultés du textile moyenne gamme, décryptage Valentin Grille. Enfin, le méga-feu dans l'Aude, les 2000 pompiers à pied d'œuvre font toujours face à des conditions météorologiques difficiles. Reportage de Boris Loumagne à Thézan-des-Corbières. Avant toute autre chose, la riposte d'Alger aux mesures envisagées hier par le chef de l'État français. Les autorités algériennes ambitionnent en effet d'abroger l'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques avec Paris. C'est prendre le strict contre-pied de ce qu'a demandé hier à son Premier ministre Emmanuel Macron. François Bayrou ce soir assure, je cite, que la France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel. Cette dernière passe d'armes pourrait pourtant lui donner tort. Bonsoir Justine Leblon.
Bonsoir Mathieu.
Justine, que dire de cette dernière passe d'armes justement ?
Bien, l'Algérie, elle, de son côté, accuse plutôt la France de s'exonérer de ses responsabilités et de faire porter tous les torts à la partie algérienne. Alors, concernant cet accord d'exemption de visa en place depuis 2013, Alger rappelle, je cite, que c'est la France seule qui a été à l'origine d'une telle demande et qu'en décidant de le suspendre, la France offre à l'Algérie l'opportunité de dénoncer l'existence même de cet accord.
Entrons avec vous dans le détail de la ligne, justement, défendue par Paris.
Hier, Emmanuel Macron a donc demandé au gouvernement de suspendre formellement cet accord qui permet aux passeports diplomatiques de ne pas avoir besoin de visa pour des séjours courts. Il demande aussi d'actionner le levier visa réadmission qui permet en plus de refuser les visas pour des séjours longs cette fois et ce pour tout type de demandeurs. Ce tour de vis d'Emmanuel Macron s'inscrit dans un contexte de crise diplomatique entre les deux pays depuis l'été 2024 après la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Alger estime que depuis, la France a procédé par injonction, ultimatum et, je cite, sommation. La France, de son côté, reproche notamment à l'Algérie de refuser de reprendre ses ressortissants visés par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et demande en vain la libération de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise. Tout à l'heure, François Bayrou a déclaré que l'idée est d'appliquer ces nouvelles mesures dans l'esprit de retrouver un jour des relations qui soient équilibrées et justes, d'après ses mots.
Merci à vous, Justine Leblon. Le Premier ministre israélien a donc réuni un cabinet de sécurité qui, selon toute vraisemblance, devrait approuver un plan visant à conquérir l'ensemble de la bande de Gaza, moyennant une mobilisation massive de réservistes. Une ambition, l'a beaucoup dit, qui s'attire depuis des semaines les foudres de la hiérarchie militaire. Bonsoir Éric Biégalam.
Bonsoir Mathieu.
Éric, avec vous, commençons par rappeler que l'armée israélienne occupe et opère, ou opère actuellement au sol dans près de 75% de la bande de Gaza et que les zones non occupées sont les plus peuplés.
Oui, ce sont même les seuls qui sont en fait peuplés, hein, parce que le contrôle militaire du terrain dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, c'est en gros, vous l'avez dit, 75% du territoire, c'est en gros partout, sauf trois endroits. Premièrement, le cœur de la ville de Gaza, où se trouverait environ 1 million de personnes. Deuxièmement, plus au sud et sur la côte, la région de Deir el-Bala, 10 kilomètres plus au sud. Là serait cantonné entre 300 et 400 000 Palestiniens. Enfin, la bande de terrain sur la côte, tout au sud de l'enclave, le camp d'Al-Mawassi, où seraient entassés déjà quelques 600 000 personnes. Partout ailleurs, sur Rafah, sur la plupart de l'agglomération de Khan Younes, la population a été évacuée et les ruines sont omniprésentes. L'armée israélienne y poursuit ses opérations, souvent en but à quelques coups de main ou pièges laissés par le Hamas, qui dispose encore de quelques cellules combattantes dans la région, mais qui ne font pas le poids. L'armée israélienne vient d'ailleurs d'annoncer avoir démantelé la dernière brigade du Hamas, celle de Beit Hanoun, tout au nord de l'enclave. Mais il doit rester quelques cellules opérationnelles, ici ou là. L'une d'elles vient par exemple de lancer une roquette sur une localité de ce que l'on appelle l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire tout autour de l'enclave, roquette dûment interceptée, mais elle signifie que le Hamas dispose encore de quelques moyens d'attaque lourds.
Alors justement, quelques moyens, Eric, est-ce que le Hamas a-t-il globalement les moyens de livrer bataille ?
Alors, les estimations sont variables, mais celles qui reviennent le plus souvent font état d'une force opérationnelle du Hamas encore constituée de quelques 20 000 hommes. Je vous rappelle que c'était 30 000 hommes au début du conflit à l'automne 2023. C'était des estimations également. Alors le gros de ces troupes du Hamas est en fait caché, dilué parmi les civils que l'on trouve dans les trois zones peuplées de l'enclave et que nous venons d'évoquer. L'armée israélienne, si elle entend contrôler militairement la totalité du territoire de l'enclave, devra donc déployer entre 4 et 5 divisions autour de 50 000 hommes et procéder à des évacuations massives de civils, notamment de la ville de Gaza, l'endroit le plus peuplé, 1 million de personnes à évacuer, ce n'est pas rien, avant que d'aller chercher les derniers combattants du Hamas, les uns après les autres. Alors on peut s'attendre de la part du Hamas à de nombreux coups de main, des piégeages, des attaques brusquées visant telle ou telle unité, avec à la clé des pertes du côté de Tsahal, mais aussi des risques accrus pour les quelques 50 otages dont une vingtaine seraient toujours en vie, détenus par le Hamas. C'est la raison première qui fait que les militaires israéliens ne semblent pas des plus partants pour une opération de réoccupation de la totalité de l'enclave. L'autre, c'est qu'une fois pareil contrôle militaire du terrain achevé, il faudra encore le tenir, ce terrain, et sur la durée, cela veut dire à terme gérer aussi la population civile, plus 1,5 million de Palestiniens qu'il faudra administrer, nourrir, soigner, etc. Et ça, ça prendra des mois, et l'armée israélienne n'est tout simplement pas outillée pour ce faire.
Merci à vous, Eric Biegala, et cette orientation inquiète au plus haut point les familles des otages israéliens, dont une vingtaine de proches a pris la mer, à bord de 3 embarcations pour se rapprocher des côtes de Gaza et appeler de nouveau à la libération des leurs. À la mi-journée, le Kremlin confirmait la tenue d'une rencontre Vladimir Poutine-Donald Trump dans les prochains jours, tout en écartant, pour l'heure, un sommet à 3 avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui insiste pour négocier directement avec le président russe. Moscou confirme et Washington précise. Bonsoir Sandrine Etohandeg.
Bonsoir.
Sandrine, que sait-on exactement des enjeux de cette rencontre à l'heure qu'il est ?
Alors, on en sait un petit peu plus chaque heure, même si on ne sait pas la date précise et le lieu. Ce sera peut-être aux Émirats Arabes Unis, a indiqué Vladimir Poutine aujourd'hui, qui parle du président émirati Mohamed Ben Zayed comme d'un ami prêt à organiser ce type d'événement. Cette rencontre, dont on imagine le défi logistique et sécuritaire, est en tout cas une accélération du calendrier. Tout semble s'être joué lors de la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine hier à Moscou, alors que le président russe semblait inflexible jusqu'à que là, Donald Trump a parlé d'un entretien très productif avec de grandes avancées, même si on ne sait pas vraiment sur quel point ils se sont mis d'accord. Selon la presse américaine, un éventuel cessez-le-feu aérien d'abord a été évoqué, avec pour la Russie des contreparties sur des cessions de territoires partiellement occupés, la garantie que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN à l'avenir. Cette rencontre, ce sera donc, vous l'avez rappelé, un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump sans Volodymyr Zelensky, alors que l'émissaire Steve Witkoff avait proposé une rencontre trilatérale avec le président de l'Ukraine, mais les conditions ne sont pas réunies, dit Moscou. Une manière pour Vladimir Poutine de négocier selon ses termes.
Sandrine, cette rencontre est en tout cas un retournement diplomatique.
Oui, on s'en souvient, en janvier, lors de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump promettait de mettre fin à la guerre rapidement. Il s'était rapproché de Vladimir Poutine. Ces derniers mois, face à la poursuite des combats, il avait exprimé sa frustration, son impatience, traitant Vladimir Poutine de fou, multipliant les ultimatums jusqu'à cette annonce récente du positionnement de 2 sous-marins nucléaires. En tout cas, un cessez-le-feu, on n'y est pas. Donald Trump maintient pour le moment le principe des sanctions secondaires pour les pays qui achètent du pétrole. L'Inde en a fait les frais en premier, avec des droits de douane supplémentaires de 25% qui entreront en vigueur dans 3 semaines et qui s'ajoutent aux 25% de surtaxes qui ont été imposées et qui commencent aujourd'hui.
Merci à vous Sandrine Etohandeg en direct de Washington. Est-ce à dire que cette rencontre est la résultante des pressions et autres ultimatums de Donald Trump ? Élément de réponse avec Florent Parmentier, docteur en sciences politiques et géopolitologue, secrétaire général du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po.
Pour Vladimir Poutine, très vraisemblablement, il y a cet élément de pression, une date butoir, mais il y a aussi la possibilité, en quelque sorte, de se replacer au centre du jeu en rencontrant directement le président américain, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2022. Il y a une forme de normalisation de la Russie qui passerait par là, ce qui veut dire aussi une normalisation des demandes spécifiques de la Russie, qui à ce jour semble difficilement acceptable du côté de l'Ukraine. Le problème n'est pas seulement de trouver l'équilibre entre les attentes américaines et les attentes russes vis-à-vis du conflit. C'est aussi de prendre en compte les attentes spécifiques de l'Ukraine. Du côté des Ukrainiens, Si on regarde un petit peu la presse, il y a une forme d'inquiétude, effectivement, selon laquelle Donald Trump pourrait faire la paix avec Moscou en passant par perdre des profits, finalement, des intérêts ukrainiens. On ne sait pas très bien où Vladimir Poutine accepterait de faire des concessions.
Le géopolitologue Florent Parmentier, propos recueillis par Benjamin Recouvreur. Les négociations à Genève en vue d'établir le premier traité mondial de lutte contre la pollution plastique. Les négociations sont bloquées par des pays pétroliers qui refusent toute contrainte sur la production de plastique vierge. Il est 18h10, vous écoutez le journal de France Culture. Naf-Naf, c'est fini. La marque de prêt-à-porter va disparaître. Décision du tribunal de commerce de Paris ce matin. 12 magasins seront transformés par le nouveau propriétaire, le groupe français Beaumanoir, et la moitié des 600 emplois pourraient être préservés. La fin d'un parcours chaotique avec tout de même 3 redressements judiciaires en 5 ans. Le textile, moyenne gamme, souffre, les faillites se multiplient. Koukaï, Camailleux, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers. Les syndicats dénoncent désormais des rachats guidés par la perspective de profits rapides avec des méthodes à la limite de la légalité et avec à la clé, Valentin Gris, des fermetures toujours brutales.
Un consortium chinois en 2018, puis 2 fournisseurs turcs en 2020 et 2023. Et à chaque fois, Naf-Naf est placé en redressement judiciaire avant d'être reprise pour une bouchée de pain. Élodie Ferrier est secrétaire fédérale de la CGT Commerce et Services. Elle dénonce des stratégies rodées. Après le rachat, les groupes s'endettent sans investir.
Et puis derrière, ils vont siphonner les fonds de cette même entreprise. Ils vont la mettre en faillite, mais volontairement. Et une fois qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, ils se mettent en redressement judiciaire, ou voire même en liquidation dans le pire des cas, ce qui est arrivé pour Jennifer. Ça leur permet de se séparer de cette entreprise sans rien payer.
Au passage, des aides publiques à l'embauche, des crédits d'impôt en tout genre aident à dégager quelques profits. Voire pire, l'homme d'affaires Michel Ohayon a été mis en examen en juin, soupçonné d'avoir détourné des fonds de Gap, Gosport et Camailleux, dont les derniers ont désormais disparu. Il aurait profité des prêts garantis par l'État. Syndicats et avocats dénoncent un cadre légal qui permet des dérives. Les ordonnances Macron, en 2017, ont fluidifié les licenciements économiques en cas de cessation d'activité. Les groupes en profitent pour se délester des salariés.
Ça leur permet de licencier des salariés pour motif économique, sans justifier de difficultés économiques. Donc cessation, redressement, tout ça, c'est dans le package. Et ils peuvent se servir de ça pour pouvoir faire des licenciements économiques sans que ça leur coûte à eux.
Les tribunaux de commerce restent neutres, ne s'attardant que sur les conditions financières du rachat, sans exiger une stratégie d'emploi. Exemple phare, Orchestra, marque pour enfants, cédé de nouveau à son ancien propriétaire qui l'avait pourtant fait crouler sous la dette. Reste désormais la question des sanctions pour ces investisseurs vautours. Pimki a annoncé des licenciements en 2024, alors que les clauses de son rachat le lui interdisaient. Son propriétaire Amonis n'a pas été sanctionné. Il s'est même déclaré candidat par la suite au rachat de Jennifer et Naf-Naf.
Valentin Gris, le Conseil constitutionnel, se prononcera à 19h au sujet de la loi Duplon, présentée comme une réponse aux grandes manifestations agricoles de 2024. Elle a été l'objet d'un fort mouvement de contestation. Cet été, à l'initiative de défenseurs de l'environnement, une pétition réclamant son abrogation a réuni plus de 2,1 millions de signatures. Dans l'Aude, le feu qui a parcouru 17 000 hectares est-il en passe d'être fixé? C'est en tout cas l'espoir des pompiers, même si sur place, les conditions météorologiques restent difficiles. Boris Loumagne, avec Martin Troadec, vous avez pu vous approcher en fin de matinée l'un des foyers encore actifs sur la commune de Thézan-des-Corbières.
En début de matinée, les cimes des cyprès se sont agitées, le vent a commencé à se lever. Rapidement, on a vu apparaître les premières fumées se dégager des collines, comme celle-ci sur la commune de Thézan-des-Corbières. Face à nous, des pins en flammes et des pompiers qui tentent de freiner la progression du feu. Le colonel Sabot nous décrit la méthode employée.
Ici, là, vous avez un exemple typique de la stratégie française de lutte contre les feux de forêt, avec l'attaque massive aéroterrestre. On a une réactivation de foyers, on engage massivement les moyens, beaucoup de camions, là on est à une douzaine de camions. En même temps, on met l'hélicoptère bombardier d'eau pour nous aider dans les airs, pour traiter le plus rapidement possible ce feu et éviter qu'il ne prenne de l'ampleur.
Au sol, dans la garrigue, des pompiers tentent de se frayer un chemin pour s'approcher au plus près du foyer avec leur lance. Il fait très chaud, il y a de la fumée partout autour d'eux. L'effort physique est très intense.
Ils sont à la guerre contre le feu. Ils sont un peu confrontés aux éléments. La fumée, la chaleur, Le bruit fait par les hélicoptères, le bruit fait par les camions, le bruit fait par le feu, la tension qui peut régner puisqu'ils sont au combat, hein, et ils sont confrontés un peu à tous ces éléments-là. En plus, nos équipements, hein, ils ont des équipements de protection individuelle qui ajoutent aussi de la complexité avec des problèmes de déshydratation qui peuvent arriver, des coups de chaud, etc., tous les éléments auxquels ils sont confrontés.
Les pompiers engagés sur cette colline se battent pied à pied contre les flammes, mais nous avons pu constater qu'en l'espace de 2 heures, le feu avait progressé d'environ 200 mètres. En clair, l'incendie continue d'avancer sur certaines zones, mais sa vitesse de propagation est tout de même bien moins importante qu'hier et avant-hier. Voilà pourquoi les pompiers espèrent toujours qu'en début de soirée, le feu de l'Aude sera enfin fixé.
Reportage Boris Loumagne, Martin Troadec. Les préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont pris des arrêtés pour limiter l'usage de l'eau. Au total, 11 départements du sud de la France sont placés en vigilance orange canicule. De la Bretagne et de la Normandie aux Hauts-de-France et jusqu'au nord de l'Île-de-France. Le ciel sera demain très nuageux, demain matin, avec de rares et faibles pluies ou bruines. Ailleurs, du soleil tout au long de la journée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Anthony Thomasson.